Donc Mohamed Boudia, c'est un militant de la lutte de libération nationale algérienne. Donc qui a combattu pour la libération de l'Algérie face à la France coloniale entre 56 et 62 à peu près. Et en même temps, il a été homme de culture, homme de théâtre, écrivain, journaliste, sur tout ça. Donc ça, on verra un peu en expliquant un peu ce qu'il a fait pour la culture. Et en tant que militant, il a été très vite impliqué dans des groupes d'action armés pour la cause algérienne. Il a notamment participé à un attentat qui est un des plus connus et aussi des plus réussis, comme dirait le plus réussi. Un attentat sur le sol métropolitain, c'est-à-dire en France, pour faire parler de la cause algérienne. En 58, à côté de Marseille, dans un petit village qui s'appelle Morpiane, où il y avait des dépôts pétroliers, et il a participé à l'équipe qui a fait sauter tous les dépôts pétroliers pour faire parler de la cause algérienne et pour bloquer aussi un peu la machine du pouvoir colonial français. Et après, il a eu plein de péripéties, il a été emprisonné pour ça, il s'est évadé de prison. Il a rejoint la Suisse où il a rencontré Conu Niels. Il a rejoint la Tunisie où il a fait du théâtre déjà. Après, il a rejoint l'Algérie indépendante en 62 où il a été nommé administrateur du théâtre national algérien d'Alger. Et il a pris les rênes du théâtre national d'Alger. Entre-temps, il a été journaliste, il a créé des revues, il a créé un journal. Il a été très actif dans la culture jusqu'en 65. En 65, en Algérie, il y a eu un coup d'État qui a amené le colonel Boumédienne au pouvoir. Et si Boudia participe, il était dans l'équipe du président Ben Bella qui s'est fait évincer. Donc il a été opposant à ce coup d'État. Il a été opposant politique d'une organisation politique de résistance. Et pour ça, il a été condamné à mort. Il s'est donc exilé en France. Et en France, il va y rester de 65 à 73, en continuant à être actif dans la culture, mais aussi dans les réseaux politiques, et notamment les réseaux contre le nouveau pouvoir algérien, un peu, mais surtout dans une dimension internationaliste à l'époque, et pour la cause palestinienne. Il est rentré pleinement dans ce qu'on a appelé la révolution arabe, et pour la cause de la libération de la Palestine, il a rejoint un groupe qui s'appelle Septembre Noir en Europe, où il a participé à diverses actions armées, non armées, mais surtout armées, pour la cause palestinienne, jusqu'à se faire assassiner en 1973 à Paris par le Mossad, les services secrets israéliens. Ça, c'est pour un peu cadrer le personnage. Pas connu comme plein de personnages de cette époque qui ont été un peu oubliés. Oubliés par leur nationalité, le fait que sur quoi ils écrivaient, c'est moins d'actualité, ou en tout cas, on n'en parle plus de la même façon. Mais aussi parce que les éditions BMN et le petit collectif qu'on était d'avoir travaillé sur Boudia, on est arrivé par Boudia sans savoir qu'il faisait du théâtre politique. Et comme aujourd'hui, le thème, et quand Emmanuel nous a demandé, c'était autour du théâtre politique. En fait, c'était d'être assez honnête avec nous-mêmes, de dire on ne connaissait pas le théâtre politique. Par contre, en découvrant Boudia via l'action politique, donc là, c'est vraiment le teaser, il est vraiment axé sur ça, vous avez vu. C'est vraiment en fait l'homme d'action, et surtout sur la période palestinienne. Ça nous a ouvert les portes sur le personnage de Boudia et tout un contexte qu'on a voulu reprendre dans le livre. C'est-à-dire, présenter Boudia et son théâtre, c'était impossible sans refaire tout un historique de cette période-là, et de surtout comment lui, il est arrivé au théâtre. Et Boudia, il arrive au théâtre à travers la prison. Il est jeune, il naît à la Casbah, c'est un quartier très très populaire du centre d'Alger, qui est à l'époque du colonialisme. Et le quartier arabe, et le quartier un peu où sévit l'apartheid. C'est-à-dire on sort difficilement de la Casbah quand on est algérien, et on rentre difficilement dans Alger, la ville européenne, et inversement. les Européens d'Alger ont très difficilement la Casbah. Et lui, il grandit là-bas, il sort très vite du système scolaire, il y va à peine quelques années. Il travaille comme beaucoup de jeunes, très très jeunes, dans la rue, comme porteur, comme il a tout été tailleur, porteur, livreur, tout été. Et à un moment de sa vie, de son adolescence, il est incarcéré pour un vol minime d'argent qu'il a dérobé au patron qui ne voulait pas le payer. Et donc il rentre à Bir Khadem, qui est une prison pour mineurs connue, où beaucoup beaucoup de militants, de futurs militants de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération nationale vont passer. Et c'est là-bas qu'il rentre dans le monde du théâtre via les services de l'action sociale, qui est une espèce de bureau qui veut intégrer les jeunes Algériens pour essayer de les sortir de la rue. Mais aussi pour en faire des bons Algériens qui reconnaissent le pouvoir colonial. Ça marchera pas avec Boudia, mais en tout cas, ça lui permet de rentrer au Centre régional d'art dramatique d'Alger, qui est tenu à l'époque par les pouvoirs coloniaux. Mais il rentre dans une troupe, il participe à des. Ils font du petit théâtre. Du théâtre d'Alger, mais. Avec beaucoup de pieds noirs et d'Européens dans la troupe. Donc c'est via la prison aussi, il va se former politiquement petit à petit, et c'est grâce à la prison, entre guillemets, qu'il rencontre le théâtre. Et il va très vite comprendre, dans ses écrits, il raconte à quel point il a compris à ce moment-là que le théâtre pouvait devenir dangereux, et dangereux pour ceux qui ont la force. Il dit seulement à ce moment-là, j'ai compris que le théâtre pouvait être craint par ceux qui détiennent la force, qu'il était donc dangereux et qu'il pouvait être une arme. Et après, il l'utilisera plus tard dans la guerre révolutionnaire du peuple algérien pour l'indépendance. Le théâtre, avant de le concevoir comme une arme politique, c'est l'occasion pour lui de voyager, de sortir justement de ce milieu très extriqué de la Casbah, parce que grâce à la troupe qu'il a intégré avec le CRAS, il voyage en Europe, il va à un festival qui s'appelle le Festival de la Lorelei, qui est organisé en Allemagne, qui est un grand festival européen à l'époque, qui est organisé par les puissances européennes pour contrer le Festival de la Jeunesse, organisé par l'URSS et par les pays socialistes. Donc, on est au milieu des années 50 et Boudia peut voyager en Allemagne. Il rencontre plein de gens, plein de nationalités de toute l'Europe. Il rencontre des Jean Vidard, Roger Planchon, Jean Rouvet. Et ben, faut se dire que lui, c'est un jeune de quartier populaire qui est analphabète, mais qui va très vite côtoyer ces gens-là, assez naturellement. Il rencontre aussi un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Beuglin, qui va rester un ami de Boudia et qui va participer à l'aventure du Théâtre National d'Alger, qui va, après l'indépendance, créer avec Boudia le Théâtre National d'Alger. Donc voilà, c'est par ce contexte, par toute cette histoire qui rentre dans le théâtre et qui voyage, et il va garder des liens avec ces gens-là. Donc ça, c'est une autre porte encore pour penser plus qu'un théâtre politique, un continuum historique et social qui s'articule autour du théâtre. Mais en soi, son théâtre tout seul, il est rien sans toutes ces portes d'entrée. Sans le fait, s'il n'y était pas arrivé par la prison, ça aurait donné autre chose, etc. C'est un contexte, un continuum. Pour éclairer un peu ce même continuum, on peut parler par exemple de la fabrication des deux pièces. Donc au-delà du texte même de ces deux pièces, qui s'appelle Naissance avec un S et l'Olivier, plus que le texte en lui-même, c'est la fabrication, l'écriture, la fabrication des deux pièces qui est très intéressante pour comprendre le rapport de Boudia à la politique et à comment il pense la culture et comment il va penser le théâtre aussi. C'est un long cheminement. Les deux pièces, elles sont écrites en prison. Après l'attentat de Mourepiane qu'on voit dans la vidéo, il est condamné avec 16 autres Algériens du groupe, d'abord à la condamnation à mort, puis à la prison à vie. Il est incarcéré à Fresnes, à Paris. Et là, en fait, il rejoint une réalité de l'époque qui est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Algériens emprisonnés parce qu'ils ont pris, ils sont entrés dans la lutte pour la libération de l'Algérie, mais aussi de camarades de ces Algériens, de camarades français ou belges ou alliés qui sont aussi emprisonnés. Et beaucoup de ces gens-là se retrouvent en prison et le Front de Libération Nationale, l'organisation qui mène la lutte de libération, la plus importante, elle s'organise en prison et elle organise les prisonniers. C'est-à-dire que c'est des cellules, les cellules ça devient au quotidien des moments et des espaces de politisation, d'organisation. Tout est organisé, du lever au café, au tour de ménage, au jeu. Il y a des directives, etc. Et Boudia, il reçoit l'ordre d'animer les moments culturels dans la prison, et notamment de faire du théâtre. Et c'est là qu'il va écrire les deux pièces, en utilisant l'aide de camarades, notamment un camarade français, à lui, qui s'appelle Étienne Bolo, qui est son co-détenu, qui est le seul à avoir une machine à écrire. Et c'est cette personne qui va taper les pièces, par exemple. De la même façon, il monte avec d'autres camarades à lui des pièces en prison. Il obtient le droit de faire des représentations, c'est-à-dire qu'il va organiser des gens, beaucoup d'Algériens qui connaissent rien en théâtre, qui ne savent même pas ce que c'est le théâtre. Et ils vont monter ensemble des pièces, ils vont les jouer devant les prisonniers. Ils vont notamment jouer une des pièces qui est l'Olivier, donc de ces pièces qui va monter en prison. Et ils vont monter aussi une pièce de Molière, il me semble que c'est l'école des femmes en algérien. C'est-à-dire en arabe algérien. Ils vont jouer ça devant, je ne sais plus combien ils m'ont dit, mais il y avait peut-être 1 000 prisonniers dans la chapelle de la prison en algérien. Et encore une fois, je pense qu'il se fait la preuve à lui-même et il prouve aussi à tous les Algériens en prison ce que peut représenter la force du théâtre. C'est-à-dire, par exemple, au sein même de l'institution carcérale française, ils jouent avec leur propre langue, méprisée. Ils rient, et ils rient de l'école des femmes de Molière dans leur propre langue. Et ça, c'est des témoignages. Si encore une fois, quand on fait le travail de reddition, on va croiser beaucoup de gens qui étaient dans la prison à ce moment-là. Et ça, c'est un témoignage, par exemple, d'un autre camarade qui était détenu pardon, de Boudia, qui s'appelle Diego Masson, et qui se souvient, lui il était dans la chapelle, il comprenait rien, parce qu'il comprenait pas l'arabe, mais il a vu ses co-détenus pleurer de joie et de rire dans la chapelle. Une autre petite porte d'entrée, enfin une autre anecdote ou une autre réalité qui prouve ce côté collectif de l'écriture, c'est là, mais Nils en reparlera aussi, je pense, dans des lettres que Nils échange avec Boudia. Boudia raconte comment les pièces, avant d'être éditées, comme on racontera à Nice, ils attendent la validation du comité du FLN. C'est-à-dire que les frères du FLN valident la pièce, vont valider les deux pièces. Parce que c'est pensé comme une arme de plus dans la lutte pour la libération de l'Algérie. Et aussi qui montre bien que l'intérêt, c'est pas d'être auteur de théâtre ou de devenir écrivain, c'est de participer à une lutte collective avec plein de façons différentes d'être actif. Une autre porte pour penser ce continuum de théâtre politique qui va bien au-delà, et comme le disait Emmanuel dans l'introduction, c'est que grâce au théâtre et à tout cet amas de culture que Boudia amasse, il va vite prendre conscience que la lutte contre le colonialisme, c'est pas qu'une lutte anticoloniale, c'est une lutte décoloniale aussi. C'est-à-dire que même une fois qu'on a vaincu le colonialisme, et là c'est assez simple, il faut vaincre une armée et la mettre dehors. Il y a une autre lutte qui se met en place, qui est une lutte décoloniale, c'est-à-dire qu'il faut reprendre toutes les habitudes d'oppression qui ont été intégrées, qui ont été répétées. Et pour Boudia, comme pour plein d'autres gens à ce moment-là, à l'Algérie, en 62, même lorsque l'Algérie est indépendante, il faut travailler à faire que la culture se décolonialise, c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier la culture, se réapproprier une langue, se réapproprier une façon de faire l'art qui correspond aux réalités algériennes, qui ne peuvent plus être les mêmes que celles qui existaient sous le colonialisme. Et donc il tient à mettre en place, avec d'autres membres de l'équipe de pouvoir, mais aussi d'autres artistes à ce moment-là, des politiques culturelles et des politiques publiques pour désaliéner, décoloniser et faire en masse, la culture. Et pour ça, l'arme théâtrale, elle est extrêmement importante pour Boudia. Il va, donc on l'a dit, il écrit les statuts du Théâtre national d'Alger, notamment avec Jean-Marie Beuglin, qui l'a rejoint à Alger, avec un autre écrivain algérien qui s'appelle Mourad Bourboune. Il crée les statuts, il va devenir administrateur du TNA, et là il travaille jour et nuit à recréer un théâtre, à refaire les salles, à faire venir des artistes, à faire venir des troupes internationales, à former des jeunes Algériens qui avaient toujours été exclus ou discriminés pour arriver au théâtre. Il va créer pour ça une école d'art dramatique, de rien, avec rien, il crée une école d'art dramatique. Là où vont apprendre toutes les futures stars du théâtre et du cinéma algérien des années 70-80, elles vont être formées dans cette école-là, par exemple. Mais il multiplie aussi, il va participer à une revue culturelle, il va créer un journal populaire, il va créer un train culturel, parce qu'il a été marqué par Lénine et par le train culturel en URSS. Au moment de la révolution d'octobre et un peu après, il va refaire un peu la même initiative à l'Algérienne. Il va dire que la culture, c'est pas que à Alger, il faut aller auprès des gens. Donc, il va dans toute l'Algérie, ils vont toute l'Algérie, dans les campagnes, avec une troupe de théâtre, une troupe de musique et je crois aussi quelques autres artistes. Et tout ça entre 62 et 65. Il va créer un prix littéraire algérien. Qui vont remettre à Frantz Fanon, etc., etc. Tout ça en 3 ans, même pas. Il va intervenir au Festival d'Avignon en 1964. Voilà, c'est dire un peu tout ce continuum de plus que de théâtre de politique, de rapport politique d'approche politique de la culture, comme un tout, comme quand il était en prison, on ne pouvait pas faire de différence entre un prisonnier analphabète qui a juste participé à des actions armées ou, comme lui, quelqu'un qui maîtrise déjà un peu l'écriture ou qui va éditer des pièces. Voilà, je pense pour un premier temps. Après, c'est bien que, comme ça, Nils va pouvoir vous faire ce même travail de contextualisation, en fait, à l'époque, parce que le travail de Nils, c'est la même chose, c'est faire. Nous, si on a réédité ça comme ça, en voulant prendre en compte tout ce continuum-là, toute cette totalité-là, c'est-à-dire montrer que Boudia, c'est quelqu'un qui a posé des bombes, oui, mais qui a aussi formé des gens, qui a écrit des livres, qui a écrit de la poésie, qui a écrit des articles de journaux pas signés, parce qu'il n'avait pas le temps. L'important, ce n'était pas de signer ou de se faire une bibliothèque, c'était de participer à faire revivre tout un pays et à décolonialiser une culture. Et donc, avec la même dynamique, on peut approcher d'autres façons d'aborder l'art, que ce soit en rééditant un livre ou, à l'époque, comme Nils, en éditant même les premiers livres. Et dans un autre contexte beaucoup plus difficile, comme il va nous l'expliquer.
Bon, on m'a dit un peu de parler de l'édition politique, militante, et naturellement aussi de mon média. D'abord, préciser, peut-être, n'importe quel éditeur peut éditer un livre politique ou un livre militant par sa qualité ou parce qu'il y a, disons, une raison marchande qui le justifie. Il faut distinguer ce qu'est l'éditeur militant, parce que c'est à ce moment-là que c'est un engagement, ça correspond à ses convictions, il publie les choses en fonction de ses propres convictions. Et il est attaché à cela. Mais même à l'intérieur de cela, il peut y avoir, disons, deux niveaux. Il y a celui qui, par conviction, publie certains livres, révolutionnaires, politiques, ou autres. Et il y a celui qui, pour lequel l'édition, il ne peut pas, ce qu'il publie, il ne peut pas rester extérieur à l'action que ce qu'il publie suscite. Et, par exemple, dans le cas de la guerre d'Algérie, il participe à dénoncer le colonialisme. Il ne suffit pas pour lui de dénoncer son colonialisme, mais il y a des luttes qui s'engagent, et donc il participe à ces luttes aux côtés de ces luttes. Tous les éditeurs ne l'ont pas fait. Les éditions de Minuit, qui a été le premier et le plus grand éditeur pour dénoncer les violences et la torture en Algérie, avait une stricte position d'éditeur, engagé, clair, net, sans équivoque, et avec tous les risques que ça comportait, mais il n'était pas un éditeur militant. Au contraire, parce que pour lui, c'était pas une action politique dans laquelle il s'engageait en tant que tel. Au contraire, Maspero, par exemple, on ne pouvait pas détacher les livres qu'on publiait de l'engagement politique. C'est-à-dire qu'en même temps, il y avait le côté politique engagé, mais il y avait à côté de ça, il y avait le soutien à la solidarité des Algériens, il y avait du soutien aux Algériens, et les choses, à ce moment-là, se combinaient. C'était indissociable. On ne pouvait pas seulement éditer sans être engagé. D'abord parce que dans la responsabilité, les gens, les lecteurs, peuvent, à partir d'un livre, s'engager dans une cause ou quelque chose. Alors, c'est très gentil de dire aux gens « engagez-vous », mais il est important aussi de s'engager soi-même à ce moment-là. Donc, c'est ce qui peut distinguer ce que j'appellerais l'éditeur militant, engagé, et c'est donc dans, dans cette conception-là des choses que j'ai édité les premiers livres, réédité la question, ensuite d'autres livres pour Saint-Algérie, et que j'ai édité Mohamed Boudia. Ensuite, dans l'engagement, il y a aussi une situation du moment. Les situations ne sont pas toujours identiques. Il y a toujours l'éditeur engagé. L'édition, en sont un exemple. L'éditeur engagé, l'éditeur militant. Mais il y a des conditions particulières. Par exemple, dans le moment de l'occupation allemande et de la résistance, il y avait des éditeurs clandestins. Les éditions de Minuit en étaient le plus bel exemple aussi. Les risques ne sont pas les mêmes que dans d'autres situations. Ce n'est pas une question de mérite particulier, c'est la situation qui crée ces risques. Pendant la guerre d'Algérie aussi, parce que on peut voir, si on regarde le nombre d'éditeurs qui ont édité des livres pendant la guerre d'Algérie, qui étaient favorables à l'indépendance d'Algérie, qui ne dit pas contre la guerre d'Algérie, mais à l'indépendance d'Algérie, c'est Jérôme Lindon, l'édition Minuit, qui le disait lui-même, il se compte sur les doigts de la main. C'est parce que il y avait, au-delà de l'édition elle-même, il y avait des risques, qui étaient des risques de procès, on l'a vu, de saisie, au moment où le gouvernement français a commencé avec la question, puis ensuite, il y a eu plus de 30 livres saisis pendant la guerre d'Algérie, mais ces saisies, il faut voir ce que ça signifie pour un éditeur. C'est des livres saisis, c'est une perte. Mais ça, c'est encore la menace économique. Il y avait des procès avec des condamnations aussi, des condamnations à des amendes assez fortes. Mais il y avait aussi des risques plus grands, puisque on peut prendre pour les éditions Maspero, qui avaient en même temps la librairie La Joie de Lire, qui était un centre essentiel de diffusion des livres anticolonialistes à l'époque, qui a été plastiqué plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y avait la nuit, des gens qui montaient la garde devant la librairie pour éviter les attaques qui étaient celles, effectivement, de l'OAS ou d'autres groupes. Donc, il y a des moments où un engagement est réel. Et c'est dans ces conditions-là, par exemple, c'est une condition dans laquelle j'ai été amené à connaître d'abord Mohamed Boudia. Alors là encore, la circulation des manuscrits n'est pas celle habituelle. Le manuscrit de Mohamed Boudia, c'est les deux pièces qui sont rééditées par les petits matins. Premièrement, je les ai reçus par courrier des réseaux de soutien, vous savez, les réseaux Janson, effectivement aidaient les Algériens, pour organiser des réunions, soit pour passer la frontière, soit pour aider les évasions, etc. Les réseaux de soutien servaient aussi à ça. Boudia était en prison. Il avait fait ses pièces, on a sorti le manuscrit de prison. Là, je tiens à dire une chose en particulier, c'est que les avocats français, de ce côté-là, sont à saluer. Parce que c'est les avocats français, effectivement, entrent et sortent les choses de prison quand ils ont un engagement politique qui correspond, ce que les avocats anglais ne font jamais. Jamais. En Angleterre, c'est exclu qu'un avocat enfreigne son code qu'il a signé, etc. En France, non. Il y a des avocats qui entrent et sortent les documents de prison. Et donc, les pièces de Mohamed Boudia sont sorties ainsi, transmises au réseau qui me l'amène en Suisse et me demande si je veux éditer. Bon. Et là aussi, on est dans une situation de lutte. C'est important. Ces pièces ont été écrites en prison, jouées en prison. Ensuite, il y a la personnalité de Boudia lui-même. Boudia a été, ça a déjà été dit par Luc, a été militant du FLN, mais dans l'organisation la plus clandestine du FLN, c'est-à-dire lorsqu'on appelle l'organisation spéciale. L'organisation spéciale est celle qui organisait les attentats ou d'autres opérations de libération de prisonniers ou autres. Donc c'était les militants les plus engagés et ceux qui prenaient le plus de risques, et y compris sachant que ce risque pouvait, dans ces conditions de l'époque, aller jusqu'à la mort, c'est sûr. Il y a eu un dialogue la veille du procès de Boudia et de ses compagnons, dans lequel l'avocat qui était Vergès à l'époque, parmi leurs avocats, il y avait Vergès, leur donne le mode de défense qu'il va adopter, qui était un mode très radical, et leur réponse a été: nous sommes prêts à mourir, mais nous ne cherchons pas la mort. C'est-à-dire, parce qu'on est un militant est beaucoup plus utile vivant que mort. La défense radicale, oui. Mais il faut savoir juger pour échapper à la mort, et c'est ce qui s'est passé. Le reste, ils ont été condamnés à mort, et ensuite leurs peines ont été commuées en prison à perpétuité. La prison à perpétuité, donc de toute façon la fin de l'Algérie les libérait, mais avant même la fin de la guerre d'Algérie, il y a le processus classique, on se fait transférer dans une autre prison, dans cette autre prison on essaye de pouvoir aller à l'infirmerie, et de l'infirmerie on s'évade. Ça c'est un classique. C'est ce qui s'est passé pour Boudia. Et donc, après que j'ai reçu son manuscrit, un jour, quelqu'un arrive aux éditions et me dit: voilà, je suis Boudia. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, dynamique, enthousiaste, porté par le théâtre, porté à la fois par l'action pour l'indépendance de son pays, et en même temps, très entré dans le théâtre et très entré dans les débats de l'époque. Il faut se resituer aussi ce qu'étaient les débats de l'époque dans le théâtre. Il y avait à la fois le théâtre de Jean Villard, effectivement, le TNP, qui était une image du théâtre populaire. Et là, un article « Qu'est-ce que le théâtre populaire ?» de Roland Barthes. Roland Barthes qui défendait fortement le théâtre populaire dans la rue du théâtre politique. Théâtre populaire. Il y avait cette école-là où finalement il y a trois choses qui comptent, disait Roland Barthes. Un, finalement, que ce soit un public de masse, bon, ça c'est une chose importante, c'est-à-dire sortir du théâtre dit bourgeois et enfermé dans son théâtre, qui est naturellement la qualité du texte et l'importance de la dramaturgie, c'est-à-dire effectivement ce qui était la marque du Villard, c'est-à-dire le texte et le texte seul, C'est avec cette innovation importante, c'est-à-dire que le programme n'était pas un programme, mais c'était le texte de la pièce qu'on jouait. Le programme qu'on achetait, c'est on achetait la pièce. C'était bon. Et puis il y avait parallèlement dans ce même contexte, il y avait la question, il y avait Brecht. Il y avait le théâtre de Brecht, les Berlinaires ensemble, qui pouvaient être contradictoires, mais en fait étaient très complémentaires, dans la distanciation, le théâtre politique, etc. Donc, Boudia est fait ça. Boudia est absolument dans ce contexte-là, avec le problème principal pour lui, qui était la lutte des libérations de son peuple, la lutte des libérations algériennes, et effectivement, la question de l'aliénation. Parce que, c'est un grand problème, le problème de l'aliénation coloniale, et c'est le grand rôle des intellectuels ou des écrivains ou algériens à l'époque, c'est le problème de l'aliénation coloniale. C'est d'ailleurs celui qui l'a le mieux dénoncé, c'est pas un Algérien, c'est Fanon, mais c'est bien sûr, tous les Algériens sont marqués. Et cette aliénation qui passe par tout ce qu'on imagine, mais y compris par la langue, parce que, là je ne cite pas Boudia, mais je citerai Malek Haddad, qui était un romancier algérien à l'époque, qui le cite maintenant, Malek Haddad, au moment de l'indépendance, dit, je rentre dans mon pays, et je suis un étranger parce que je n'écris pas sa langue. Je n'écris qu'en français. C'est une aliénation, c'est un problème, c'est des problèmes à dépasser. Et Boudia est dans ce moment-là. Donc, on est. Éditer Boudia était très important à ce moment-là, d'abord parce que c'était du théâtre algérien et du théâtre politique. C'était un théâtre qui posait les problèmes, non seulement de la lutte de libération, mais les questions qui vont se poser après. Et Dieu sait si les questions qui se posent après sont plus importantes, plus difficiles à résoudre que les questions qui se posent pendant la lutte armée. C'est beaucoup plus complexe d'édifier un pays que de s'y libérer. L'ennemi est unique dans un premier temps, dans la libération, il y a un ennemi unique. Lorsque on est indépendant, les choses sont beaucoup plus complexes et les tâches beaucoup plus difficiles. Donc, Boudia pose ces problèmes-là. Et donc, c'est tout ce contexte-là qui fait que c'est connu. Ensuite, il est à Alger, et effectivement, là aussi, il revient, comme il a joué en prison, il va rejouer du Molière. Molière était pour lui, disait-il, un détonateur formidable dans une société comme la société algérienne, justement, jouant l'école des femmes, il l'avait rejoué à Alger. Alors, dans la prison, c'est des hommes qui jouaient les rôles de femmes, parce qu'avec les prisons ne sont pas mixtes. Mais là, c'était une représentation. Et il disait, c'est absolument extraordinaire, parce que la salle se lève, quoi. Enfin, les femmes se lèvent, et disent, mais non, ne fais pas ça, parce que tu vas te tromper, tu te trompes, etc. Donc, c'était dans le contexte juste de la pré-indépendance, où il y avait une intensité très, très grande dans les débats et dans les discussions. C'est la force de Boudia d'avoir été dans le théâtre, parce que beaucoup l'ont été dans le roman et la littérature, mais lui, il a été dans le théâtre, un porteur de la cause et à la fois du problème de la désaliénation. La force du théâtre. Le théâtre comme élément, à certains moments il l'est plus, à certains moments il l'est moins, mais la force du théâtre comme dans un rôle politique. C'est dans un tout autre contexte, ça n'est plus la guerre d'Algérie, ça n'est plus Boudia. La ville de Genève, un jour, doit fêter son 500e anniversaire. C'est un événement. Donc on va dire, on va faire un grand spectacle, on va créer une pièce, on va faire quelque chose. Les autorités de la ville contactent un écrivain, auteur de théâtre, les autorités de la ville qui sont libérale, comme on est à Genève, en Suisse, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun gauchisme là-dedans, et contacte un écrivain qui est entre autres le critique littéraire du journal de Genève. Le journal de Genève est le journal depuis Benjamin Constant du libéralisme en Suisse, etc. Il s'appelle Walter Weidli. Walter Weidli est effectivement critique au journal de Genève. À part ça, sur le théâtre, il est brechtien, c'est-à-dire qu'il a des conceptions brechtiennes du théâtre. Mais là n'est pas le problème. Il choisit comme thème, fondamental pour les 500e anniversaire de la ville de Genève, de faire une pièce sur Necker, le banquier qu'il intitule le banquier sans visage. Et ce choix, il n'en fait pas, ce n'est pas un texte révolutionnaire, ce n'est pas un texte contestataire, mais il a pris Necker, un banquier, comme symbole de cette ville qui est effectivement une ville de banque. Hein. Et il écrit sa pièce, une pièce qui est montée par Jean Villard, en fait, c'est vraiment un très gros événement. Et il se crée une réaction des bien-pensantes, c'est une insulte. De symboliser le 500e anniversaire par le personnage de Necker. C'est donc une image de Genève, une image de la Suisse, une image de ça qui est important. Et il se crée un mouvement politique, hein, avec des manifestations dans la rue. Et c'est vraiment le Hernani de la Suisse. Il y a des batailles de rue, vraiment. Et lors de la première, donnée par Jean Villard, à chaque bout de travail, il y a un policier. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la salle, ça peut finir par une émeute, etc. Et de cette pièce de théâtre va naître un mouvement qui s'appelle les Vigilants, qui pendant 30 ans a été un des mouvements les plus extrêmes droites de Suisse, qui est né de cette pièce-là et de Necker. C'est-à-dire que des fois, le théâtre peut jouer... être un détonateur sans être forcément avoir été simplement parce que il apparaît comme choqué et heurté ce qui est la tradition, ce qui est le bien-pensant, etc. Donc voilà, donc c'est tout ça. Je pense que c'est là où je m'y attendais le moins. J'ai édité la pièce du banquier sans visage. Mais comme j'étais très marqué par les éditions, par les textes algériens, etc., je ne suis pas allé à la première, je ne suis pas allé au théâtre parce qu'il ne fallait pas ajouter un prétexte à incident. Donc c'est là où il y a une très grande force du théâtre et qui, à certains moments, s'amplifie, d'autres, c'est comme dans toute chose, il y a des phases. Intense, il y a des phases de basse eau, c'est normal dans tous les domaines. Mais je pense que l'édition politique, elle, et l'édition militante, existe toujours, elle existe aujourd'hui, ça en est un exemple, elle existe toujours, et elle joue un rôle essentiel, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'édition normale fonctionne en fonction de critères très simples qui sont la rentabilité du livre ou la marque du produit, c'est un produit maintenant, et il y a un exemple très frappant finalement combien les choses peuvent changer. Dans les années 50, il se passe effectivement beaucoup d'événements, l'Algérie est au cœur, et on a un phénomène exceptionnel qui se produit. Un jour, Jean-Jacques Fauvert édite un livre très banal, c'est Le Capital de Marx. Et puis en 3 mois, il en vend plus que les éditions sociales en ont vendu depuis 1945 pendant 10 ans. Parce que ça, c'est tout d'un coup un livre qui devient quelque chose. Hein. Donc à ce moment-là, c'est là où l'éditeur militant, il est celui qui creuse le chemin. Il n'est pas forcément celui qui est, quand les choses deviennent très importantes, là c'est ça qui apparaît souvent par d'autres, mais c'est un travail de constant, en profondeur et souvent difficile, mais qui est extrêmement important et qui est passionnant à vivre et passionnant à faire. Voilà.
Merci.